Je vous invite à écouter la parole de Dieu dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12. Daniel, chapitre 12. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là, seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. De nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Ceux qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le ciel. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens cachées ces paroles et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup liront et leur connaissance s'accroîtra. Moi, Daniel, je continuais à regarder et je vis deux autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. L'un d'eux demanda à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ?» Alors l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve leva sa main droite vers le ciel et sa main gauche, et je l'entendis déclarer « Je le jure !» par celui qui vit à jamais, ce sera un temps, des temps et une moitié. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. J'entendis ces choses, mais sans les comprendre, et je demandais, mon Seigneur, quelle sera l'issue de toutes ces choses ? Il me répondit, « Va, Daniel, ces paroles sont cachées, elles seront scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, lavés, éprouvés comme par le feu. Les méchants seront méchants, et aucun d'eux ne comprendra. Mais ceux qui auront de la sagesse comprendront. Depuis le moment où l'on fera cesser le sacrifice perpétuel et où l'on installera l'abominable profanation, s'écouleront 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui parviendra jusqu'au 1335e jour. Quant à toi, va jusqu'à la fin, tu entreras dans le repos, puis à la fin des temps, tu te relèveras pour recevoir ta part. » Ça va durer jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Les attentats ? Jusqu'à quand ? La persécution des chrétiens ? Jusqu'à quand ? Les menaces de guerre, les guerres, les injustices, la violence ? Jusqu'à quand ça va durer ? Cette question si angoissante qu'on entend monter de toutes parts dans notre monde, c'est jusque dans la Bible qu'elle se fait entendre. Dans les plaintes du livre des psaumes, mais pas seulement dans les plaintes de ces croyants qui sont victimes de l'injustice, mais aussi, et c'est étonnant, de la part d'un être céleste, comme celui qui apparaît ici en vision à Daniel. Et il pose lui-même la question qui préoccupait Daniel et qui nous préoccupe nous-mêmes. Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ? Daniel, au moment où cette vision lui est accordée, est plongé dans une grande perplexité. En exil à Babylone, il se souvient de la prophétie de Jérémie qui avait annoncé que l'exil durerait 70 ans. et qu'à la fin de cet exil, Dieu ramènerait son peuple sur sa terre. La période de 70 ans touche à sa fin et Daniel se tourne vers Dieu et lui adresse une prière très émouvante. Devant Dieu, il plaide coupable au nom de son peuple. Si nous avons été exilés, c'est notre faute. Nous nous sommes détournés de Dieu. Nous lui avons désobéi. Et Daniel implore la grâce de Dieu pour que son peuple soit rétabli. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, prête attention. Agis, ne tarde pas pour toi-même, mon Dieu, car c'est ton nom qui est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Daniel n'avait pas terminé sa prière que la réponse lui est apportée par porteur spécial, par un ange. L'ange Gabriel, celui qui sera envoyé plus tard pour annoncer à Zacharie la naissance de son fils Jean-Baptiste et celui qui sera envoyé à Marie pour annoncer la naissance de notre Sauveur Jésus. Mais le message que Gabriel apporte à Daniel est bien déconcertant. Daniel voyait s'achever une période de 70 ans à la fin de laquelle Dieu devait rétablir son peuple. Et c'est vrai que Dieu a rétabli son peuple, c'est vrai que des Juifs sont rentrés à Jérusalem, c'est vrai que le temple a été reconstruit avec l'autorisation de l'empereur de Perse. Mais Gabriel parle à Daniel d'une autre échéance, une échéance beaucoup plus lointaine, éloignée, et une échéance qui est précédée de beaucoup de troubles. Le chapitre 11, je précède juste celui que nous avons lu, c'est un chapitre extrêmement embrouillé qui décrit des guerres incessantes et compliquées entre un roi du nord, un roi du sud. Et au milieu de ça, des malheurs inquiétants pour Jérusalem, pour son temple, et pour les croyants fidèles à Dieu. Donc la fin des 70 ans, la fin de l'exil dont Daniel espérait tant, n'est pas la fin des troubles et des malheurs. L'histoire va continuer, et elle va continuer encore longtemps. D'où la question du personnage qui apparaît en vision dans ce dernier chapitre du livre. Quand donc viendra la fin de ces choses inouïes ? Avant d'écouter la réponse qui est donnée à cette question, une réponse qui est un peu surprenante, il y a une chose très forte, très simple, une chose sur laquelle nous pouvons compter, c'est qu'il y aura une fin et que cette fin sera pleinement satisfaisante. Le début du chapitre évoque cette fin, lorsqu'il parle du salut de ceux qui sont inscrits, dont le nom est inscrit dans le livre. Lorsqu'il parle de la résurrection des morts, résurrection pour la vie éternelle, pour les uns et pour les autres, la honte et l'horreur éternelle. Il parle de cette fin lorsqu'il affirme que ceux qui auront eu de la sagesse resplendiront comme le ciel et que ceux qui auront amener un grand nombre à être justes, brilleront comme les étoiles, à toujours, à jamais. Oui, il y aura une fin pleinement satisfaisante, non pas seulement un épisode positif comme les Juifs en ont connu avec le retour à Jérusalem, la reconstruction de leur temple, mais une vraie fin définitive à laquelle tous seront associés et recevront de Dieu ce qui leur est réservé. Ça, nous le savons, et nous le savons encore mieux que Daniel, puisque Jésus l'a enseigné, et que la preuve nous en a été donnée par sa résurrection. Et c'est sur cette espérance glorieuse que se termine notre Bible. avec les derniers chapitres de l'Apocalypse, où nous est décrite la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Un chapitre qui se termine et qui termine toute notre Bible par ces mots « Viens, Seigneur Jésus ». Écoutons maintenant la réponse de l'ange. Cette réponse, elle est donnée de la manière la plus solennelle. Elle est dite comme un serment au nom de Dieu, celui qui vit à jamais. Et la parole, elle est accompagnée du geste caractéristique du serment. Il lève la main droite, vers le ciel pour prendre Dieu à témoin, et même il lève aussi la main gauche. Et c'est les deux mains levées qu'il annonce l'échéance. Il n'y a rien de plus sérieux. Seulement, quand on l'entend indiquer l'échéance, on reste bouche bée. Un temps, des temps et une moitié. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et pourquoi jurer de manière si solennelle pour indiquer un délai aussi mystérieux et imprécis? Alors, par rapport à cette dernière question, on peut au moins comprendre que le serment est là pour confirmer qu'il y aura bien une fin et que le délai en est déjà fixé. Promis, juré. Dieu ne va pas constamment repousser le délai, le renvoyer à chaque fois, comme ces gens qui vous promettent de vous rendre les 50 euros que vous leur avez prêtés. La semaine prochaine, demain, dans 3 mois, ils ne vous les rendront jamais. Non, c'est promis. Il y a une chose, et s'il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, une chose dont nous devons être sûrs et bien persuadés par rapport à l'avenir, c'est bien celle-là. Mais nous voici ramenés à ce décompte étrange. Un temps, des temps et une moitié. Une sorte d'équation à 3 inconnues. D'abord, quel est le point de départ? À partir de quand est-ce qu'il faut compter? Deuxièmement, quelle est l'unité de mesure? Un temps, ça vaut combien? Et puis, troisième inconnu, même le nombre des temps n'est pas clairement indiqué. Un temps, bon, ça vaut un, et puis après, tout à la fin, une moitié, un demi, mais au milieu, des temps. Des temps, c'est combien? Alors, certains traducteurs ont l'air de savoir et ils traduisent « deux temps ». Donc, « des temps » égale « deux temps ». Pourquoi pas? Mais si c'était si clair, pourquoi l'ange n'a pas dit tout bonnement « 3 temps et demi » ou plus simplement encore « 3 ans et demi » comme certains l'indiquent gentiment en note? Alors, pour être honnête quand même avec ces traducteurs, je dois ajouter que s'ils pensent qu'il faut comprendre un temps, des temps et un demi comme 3 ans et demi, c'est parce que plus loin il est question de 1290 jours et de 1335 jours, ce qui peu ou prou correspond à 3 ans et demi. Mais pourquoi formuler la chose de manière aussi énigmatique? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un délai de 3 ans et demi pourrait bien apporter comme réponse à la question posée, à la question que nous nous posons? Ça va durer jusqu'à quand? Et ça suggère fortement que la réponse, elle n'est pas tant dans la durée que dans la manière dont la durée est indiquée. Alors, il y a d'abord cette atmosphère de mystère. Elle avertit que nous ne pouvons pas savoir précisément. Mystère, mystère. Et face à ce mystère, il ne faut surtout pas essayer de jouer les malins, comme beaucoup de gens le font malheureusement. Essayer de jouer les malins et penser qu'on va pouvoir casser le code et convertir ce délai mystérieux en années ou en siècles. Là, Jésus l'a dit de la manière la plus claire et la plus catégorique. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, penser le savoir, c'est s'imaginer mieux informé que les anges et mieux informé que le Fils de Dieu lui-même. On a beaucoup de peine à comprendre que le Fils de Dieu puisse ignorer quelque chose, une chose dont le Père garde le secret. Jésus qui disait « Mais tout ce que le Père a est à moi ». Donc c'est inouï. C'est pratiquement la seule fois où Jésus dit qu'il ignore quelque chose. Et s'il le dit, c'est pour bien nous mettre dans la tête que c'est pure folie de notre part, que c'est une énorme impiété de notre part de prétendre savoir. Et puis là, il ne s'agit pas de jouer sur les mots. Le jour et l'heure, d'accord, mais peut-être le mois, ou peut-être l'année, ou la décennie. Là, Jésus l'a redit encore à ses disciples avant de les quitter. « Ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » L'autorité de Dieu, elle se mesure non seulement au fait qu'il décide quand sera la fin, mais aussi au fait qu'il est le seul à savoir le délai qu'il a fixé. Mais alors, pourquoi quand même indiquer une échéance sous cette forme étrange, au lieu de dire plus nettement « c'est une échéance que Dieu seul connaît ». Il y a quand même quelque chose qui doit être suggéré par ce décompte mystérieux, un temps, des temps, une moitié. On voit bien que le temps qui reste avant la fin n'est pas présenté à Daniel comme tout d'un bloc, mais comme une succession d'échéances. D'ailleurs, le mot qui est employé ici, c'est un mot qui est employé couramment en hébreu pour désigner un rendez-vous, une date, la date d'une fête, une échéance. Donc on pourrait aussi traduire, comprendre une échéance, des échéances et une moitié. Il y a donc des échéances avant la fin. Et la plus importante de ces échéances, c'est évidemment, quand on se place à l'époque de Daniel, c'est la venue sur terre du Fils de Dieu, sa mort et sa résurrection. Ça, c'était encore à venir. Et c'est cette échéance unique dans l'histoire du monde qui fait dire aux apôtres que nous sommes maintenant parvenus dans les derniers temps, les dernières échéances. Et vous voyez, le nombre d'échéances n'est pas indiqué, des échéances, des temps. Et quand nous regardons les choses à l'échelle de notre histoire contemporaine, il y a eu des échéances marquantes. Il y a eu la fin d'Hitler, il y a eu la chute du communisme, des échéances qui pouvaient laisser penser que les choses allaient enfin aller beaucoup mieux, puisque les puissances oppressives étaient vaincues. Et on a bien dansé à la libération, et on a bien dansé à la chute du mur de Berlin, comme le monde allait être beau. Mais ce n'était pas l'échéance finale, ni à la libération, ni à la chute du mur de Berlin. D'autres puissances oppressives, on le voit bien, ont pris la place des précédentes. Donc ce pluriel, une échéance, des échéances, nous dit bien quelque chose sur la marche de notre monde avant la venue en gloire du Seigneur Jésus. Et la demi-mesure qui achève le décompte, une échéance, des échéances et une moitié, elle nous dit autre chose. Ce temps long, indéterminé pour nous. Ce temps est raccourci sur la fin. Ce n'est pas simplement le jeu naturel des échéances, des cycles de l'histoire. Dieu intervient souverainement, il coupe le cours de l'histoire, il l'abrège en mettant fin aux injustices, aux oppressions, à l'arrogance, à l'insouciance des humains pour établir lui-même son règne de justice et de paix. Alors voilà la réponse qui est donnée à la question « Jusqu'à quand ça va durer ?» Mais une autre question surgit alors, et cette fois c'est Daniel qui la pose. Quelle est la fin de toutes ces choses ? Oui, il y a différentes manières d'essayer de comprendre la question. Si la question porte sur la fin elle-même, la fin de l'histoire, la question paraît inutile puisque la fin, elle a déjà été décrite au début du chapitre avec la résurrection et la vie éternelle. Si la question porte sur le délai, la réponse, elle vient d'être donnée, même si Daniel avoue qu'il n'a pas compris. Et dans les deux cas, la question paraît inutile, et peut-être bien qu'elle l'est. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter quelle réponse est donnée à cette question. Car la réponse, elle porte non pas tellement sur la fin elle-même ou sur le délai, la question, elle touche au sens de tout cela. L'ange répond à la perplexité de quelqu'un qui a entendu tout ce qui précède, comme nous venons de le faire. Une fin sûre et satisfaisante, une échéance inconnue mais certaine, venant entrecouper le cours de l'histoire humaine aux multiples péripéties. Et cette personne se dit, comme vous vous le dites peut-être maintenant, mais quel est le sens de tout ça ? Si Dieu a décidé une fin aussi satisfaisante, pourquoi laisse-t-il tant l'histoire humaine se prolonger avec ses malheurs et ses souffrances ? On arrive vers la fin du sermon et vous doutez bien que je ne vais pas répondre à tout. Et d'ailleurs, l'ange ne va pas tout expliquer, loin de là. Mais l'ange nous donne deux choses à méditer pour notre instruction. Et il nous dit, beaucoup seront purifiés, lavés, épurés, et les méchants seront méchants et ne comprendront pas. Alors la première chose à méditer, c'est que pour ceux qui croient en Jésus, pour ceux qui veulent le suivre, les difficultés, les souffrances, voire même les injustices ou les persécutions dans ce monde, sont un moyen d'approfondissement de la foi, un moyen de purification. Et la chose, elle est dite trois fois de manière pratiquement identique pour bien faire ressentir ce long processus et avec quelle profondeur il agit, purifier, laver, épurer. Qui de nous peut dire qu'il n'a pas besoin de cette action en profondeur ? Ce n'est pas un temps mort d'ennui, de tracasserie inutile auquel nous sommes condamnés dans ce monde. Il y a beaucoup à faire en nous, un travail positif. Et le savoir, y adhérer, nous y impliquer, ça donne un sens à notre vie dans un monde qui n'est pas toujours si beau. Alors la seconde chose à méditer peut surprendre davantage. Les méchants seront méchants. Bon, ça, n'est-ce pas terriblement fataliste ? Et puis, notre mission, comme chrétien, n'est-elle pas justement de gagner à la foi, même des méchants, et peut-être même justement des méchants, de leur témoigner de l'amour, de leur parler de l'amour de Dieu, pour qu'ils se tournent vers le Christ, pour qu'ils reçoivent son pardon, pour qu'ils ne soient plus méchants ? Bien évidemment. Et le début du chapitre parle de la récompense de ceux qui auront amené un grand nombre à être justes. Donc pas question de renoncer à notre mission, à la mission sacrée qui nous a été confiée par notre Seigneur Jésus. Seulement, accomplir cette mission, ce n'est pas rêver. Ce n'est pas rêver que le monde sera beau. Ce n'est pas rêver que l'amour va vaincre la violence. Accomplir cette mission, comme le dit Paul, c'est en sauver de toute manière quelques-uns, et peut-être un peu plus que quelques-uns. Mais dans ce monde, il y aura toujours des méchants qui resteront méchants et qui ne comprendront pas. Et justement, de savoir ça, d'en prendre acte, donne plus de poids et plus de prix à notre engagement pour le bien et à notre attachement à Jésus-Christ. Et c'est aussi ce qui rend indispensable l'intervention directe de Dieu à la fin de l'histoire. Alors Daniel, lui, ne verra pas cette fin de son vivant. Il persévérera jusqu'à sa fin, à lui, jusqu'à sa mort. Il entrera dans son repos et il se lèvera à la fin des temps pour recevoir sa récompense. C'est là le sort de tous ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont précédés dans la gloire de Philippe Richard, d'Éric Ourcade, de bien d'autres. Quant à nous, nous ne savons pas, puisque cela est suspendu à deux inconnus, la date éventuelle de notre mort et la date certaine de l'avènement de Jésus-Christ. Mais comme nous le montre l'exemple de Daniel, ce qui compte pour nous, c'est de diriger nos regards vers la fin certaine et pleinement satisfaisante que le Père a fixée. Et quand nous sentons ressurgir en nous cette question lancinante, ça va durer jusqu'à quand ? De nous attacher plus fermement à Jésus-Christ, d'attendre avec foi sa venue, de participer à l'œuvre de purification, de sanctification qu'il veut accomplir en nous par son Esprit, et d'accomplir avec joie la mission qu'il nous a confiée. Amen.